Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, ou la politique de Machiavel au XIXe siècle par un contemporain. 1864. Simple avertissement. Ce livre a des traits qui peuvent s'appliquer à tous les gouvernements, mais il a un but plus précis. Il personnifie en particulier un système politique qui n'a pas varié un seul jour dans ses applications depuis la date néfaste et déjà trop lointaine, hélas, de son intronisation. Il ne s'agit ici ni d'un libelle ni d'un pamphlet. Le sens des peuples modernes est trop polissé pour accepter des vérités violentes sur la politique contemporaine. La durée surnaturelle de certains succès est d'ailleurs faite pour corrompre l'honnêteté elle-même. Mais la conscience publique vit encore, et le ciel finira bien quelques jours par se mêler de la partie qui se joue contre lui. On juge mieux de certains faits et de certains principes quand on les voit en dehors du cadre où ils se meuvent habituellement sous nos yeux. Le changement du point d'optique terrifie parfois le regard. Ici, tout se présente sous la forme d'une fiction. Il serait superflu d'en donner, par anticipation, la clé. Si ce livre a une portée, s'il renferme un enseignement, il faut que le lecteur le comprenne et non qu'on le lui commente. Cette lecture, d'ailleurs, ne manquera pas d'assez vives distractions. Il faut y procéder lentement, toutefois, comme il convient aux écrits qui ne sont pas des choses frivoles. On ne demandera pas quelle est la main qui a tracé ces pages. Une œuvre comme celle-ci est en quelque sorte impersonnelle. Elle répond à un appel de la conscience. Tout le monde l'a conçue. Elle est exécutée, l'auteur s'efface, car il n'est que le rédacteur d'une pensée qui est dans le sens général. Il n'est qu'un complice plus ou moins obscur de la coalition du bien. Genève, le 15 octobre 1864.
Sur les bords de cette plage déserte, on m'a dit que je rencontrerais l'ombre du grand Montesquieu. Est-ce elle-même qui est devant moi ?
Le nom de grand n'appartient ici à personne, ô Machiavel, mais je suis celui que vous cherchez.
Parmi les personnages illustres dont les ombres peuplent le séjour des ténèbres, il n'en est point que j'ai plus souhaité de rencontrer que Montesquieu. Refoulé dans ces espaces inconnus par la migration des âmes, je rends grâce au hasard qui me met enfin en présence de l'auteur de l'Esprit des lois.
L'ancien secrétaire d'État de la République florentine n'a point encore oublié le langage des cours. Mais que peuvent avoir à échanger ceux qui ont franchi ces sombres rivages, si ce n'est des angoisses et des regrets ?
Est-ce le philosophe, est-ce l'homme d'État qui parle ainsi ? Qu'importe la mort pour ceux qui ont vécu par la pensée, puisque la pensée ne meurt pas ? Je ne connais pas, quant à moi, de conditions plus tolérables que celle qui nous est faite ici jusqu'au jour du jugement dernier. Être délivré des soins et des soucis de la vie matérielle, vivre dans le domaine de la raison pure, pouvoir s'entretenir avec les grands hommes qui ont rempli l'univers du bruit de leur nom, suivre de loin les révolutions des États, la chute et la transformation des empires, méditer sur leur constitution nouvelle, sur les changements apportés dans les mœurs et dans les idées des peuples de l'Europe, sur les progrès de leur civilisation, dans la politique, dans les arts, dans l'industrie, comme dans la sphère des idées philosophiques. Mais quel théâtre pour la pensée ! Que de sujets d'étonnement, que de points de vue nouveaux, que de révélations inouïes ! Que de merveilles, s'il faut en croire les ombres qui descendent ici. La mort est pour nous comme une retraite profonde où nous achevons de recueillir les leçons de l'histoire et les titres de l'humanité. Le néant lui-même n'a pu briser tous les liens qui nous rattachent à la terre, car la prospérité s'entretient encore de ceux qui, comme vous, ont imprimé de grands mouvements à l'esprit humain. Vos principes politiques règnent à l'heure qu'il est sur près de la moitié de l'Europe, et si quelqu'un peut être affranchi de la crainte en effectuant le sombre passage qui conduit à l'enfer ou au ciel, mais qui le peut mieux que celui qui les présente avec des titres de gloire si purs devant la justice éternelle.
Vous ne parlez point de vous, Machiavel, c'est trop de modestie. Quand on laisse après soi l'immense renommée de l'auteur du traité du prince.
Je crois comprendre l'ironie qui se cache sous vos paroles. Le grand publiciste français me jugerait-il donc comme la foule qui ne connaît de moi que mon nom et un aveugle préjugé? Oui, ce livre m'a fait une renommée fatale, je le sais. Il m'a rendu responsable de toutes les tyrannies. Il m'a attiré la malédiction des peuples qui ont personnifié en moi leur haine pour le despotisme. Il a empoisonné mes derniers jours. Et la réprobation de la postérité semble m'avoir suivi jusqu'ici. Mais qu'ai-je fait pourtant? Pendant 15 ans, j'ai servi ma patrie qui était une république. J'ai conspiré pour son indépendance, et je l'ai défendue sans relâche contre Louis XII, contre les Espagnols, contre Jules II, contre Borgia lui-même, qui sans moi l'eût étouffé. Je l'ai protégée contre les intrigues sanglantes qui se croisaient dans tous les sens autour d'elle, combattant par la diplomatie comme un autre eût combattu par l'épée, traitant, négociant, nouant ou rompant les fils, suivant les intérêts de la République qui se trouvait alors écrasée entre les grandes puissances et que la guerre ballottait comme un esquif. Et ce n'était pas un gouvernement oppresseur ou autocratique que nous soutenions à Florence, c'était des institutions populaires. Étais-je de ceux que l'on a vu changer avec la fortune? Les bourreaux des Médicis ont su me trouver après la chute de Soderini. Élevé avec la liberté, j'ai succombé avec elle. J'ai vécu dans la proscription sans que le regard d'un prince daignât se tourner vers moi. Et je suis mort pauvre et oublié. Voilà ma vie, et voilà les crimes qui m'ont valu l'ingratitude de ma patrie, la haine de la postérité. Ah, le ciel peut-être sera plus juste envers moi.
Je savais tout cela, Machiavel. Et c'est pour cette raison que je n'ai jamais pu comprendre comment le patriote florentin, comment le serviteur d'une république, s'était fait le fondateur de cette sombre école qui vous a donné pour disciple toutes les têtes couronnées, mais qui est propre à justifier les plus grands forfaits de la tyrannie.
Et si je vous disais que ce livre n'a été qu'une fantaisie de diplomate, qu'il n'était point destiné à l'impression, et qu'il a reçu une publicité à laquelle l'auteur est resté étranger, qu'il a été conçu sous l'influence d'idées qui étaient alors communes à toutes les principautés italiennes, avides de s'agrandir aux dépens l'une de l'autre, et dirigées par une politique astucieuse, dans laquelle le plus perfide était réputé le plus habile.
Est-ce vraiment là votre pensée? Puisque vous me parlez avec cette franchise, je puis vous avouer que c'était la mienne. Et que je partageais à cet égard l'opinion de plusieurs de ceux qui connaissaient votre vie et avaient lu attentivement vos ouvrages. Oui, oui, Machiavel, et cet aveu vous honore. Vous n'avez pas dit alors ce que vous pensiez, ou vous ne l'avez dit que sous l'empire de sentiments personnels qui ont troublé pour un moment votre haute raison.
C'est ce qui vous trompe, Montesquieu. À l'exemple de ceux qui en ont jugé comme vous. Mon seul crime a été de dire la vérité au peuple comme au roi, non pas la vérité morale, mais la vérité politique, non pas la vérité telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle l'est, telle qu'elle sera toujours. Ce n'est pas moi qui suis le fondateur de la doctrine dont on m'attribue la paternité, c'est le cœur humain. Le machiavélisme est antérieur à Machiavel. Moïse, Sésostris, Salomon, Lysandre, Philippe et Alexandre de Macédoine, Agathoc, Romulus, Tarquin, Jules César, Auguste et même Néron, Charlemagne, Théodoric, Clovis, Hugues Capet, Louis XI, Gonzalve de Cordoue, César Borgia, voilà les ancêtres de mes doctrines. J'en passe des meilleurs, sans parler bien entendu de ceux qui sont venus après moi, dont la liste serait longue, et auxquels le traité du prince n'a rien appris que ce qu'il savait déjà par la pratique du pouvoir. Qui m'a rendu dans votre temps un plus éclatant hommage que Frédéric II? Il a réfuté la plupart la main dans l'intérêt de sa popularité en politique. Il appliquait rigoureusement mes doctrines. Et par quel inexplicable travers de l'esprit humain m'a-t-on fait un grief de ce que j'ai écrit dans cet ouvrage? Autant voudrait reprocher aux savants de rechercher les causes physiques qui amènent la chute des corps qui nous blessent en tombant, aux médecins de décrire les maladies, aux chimistes de faire l'histoire des poisons, aux moralistes de pas de Lévis, à l'historien d'écrire l'histoire.
Ô Machiavel, que Socrate n'est-il ici pour démêler le sophisme qui se cache dans vos paroles? Si peu apte que la nature m'ait fait à la discussion, il ne m'est guère difficile de vous répondre. Vous comparez au poison et à la maladie les maux engendrés par l'esprit de domination, d'astuce et de violence. Et ce sont ces maladies que vos écrits enseignent le moyen de communiquer aux États. Ce sont ces poisons que vous apprenez à distiller. Quand le savant, quand le médecin, quand le moraliste recherche le mal, ce n'est pas pour enseigner à le propager, c'est pour le guérir. Or, c'est ce que votre livre ne fait pas. Mais peu m'importe, et je n'en suis pas moins désarmé. Du moment où vous n'érigez pas le despotisme en principe, du moment où vous le considérez vous-même comme un mal, il me semble que par cela seul vous le condamnez, et sur ce point, tout au moins, nous pouvons être d'accord.
Mais nous ne le sommes point, Montesquieu, car vous n'avez pas compris toute ma pensée. Je vous ai prêté le flanc par une comparaison dont il était trop facile de triompher. L'ironie de Socrate elle-même ne m'inquiéterait pas, car ce n'était qu'un sophiste qui se servait plus habilement que les autres d'un instrument faux, la logomachie. Ce n'est pas votre école et ce n'est pas la mienne. Laissons donc les mots et les comparaisons pour nous en tenir aux idées. Eh bien, voici comment je formule mon système, et je doute que vous l'ébranliez, car il ne se compose que de déductions de faits moraux et politiques d'une vérité éternelle. L'instinct mauvais chez l'homme est plus puissant que le bon. L'homme a plus d'entraînement vers le mal que vers le bien. La crainte et la force ont sur lui plus d'empire que la raison. Je ne m'arrête point à démontrer de telles vérités. Il n'y a eu chez vous que la coterie et cervelée du baron d'Holbach, dont Jean-Jacques Rousseau fut le grand prêtre et Diderot l'apôtre, pour avoir pu les contredire. Les hommes aspirent tous à la domination, et il n'en est point qui ne fût oppresseur s'il le pouvait. Tous ou presque tous sont prêts à sacrifier les droits d'autrui, à leurs intérêts. Et qui contient entre eux ces animaux dévorants qu'on appelle les hommes? À l'origine des sociétés, c'est la force brutale et sans frein. Plus tard, c'est la loi, c'est-à-dire encore la force réglée par des formes. Vous avez consulté toutes les sources de l'histoire. Partout, la force apparaît avant le droit. La liberté politique n'est qu'une idée relative. La nécessité de vivre est ce qui domine les États comme les individus. Sous certaines latitudes de l'Europe, il y a des peuples incapables de modération dans l'exercice de la liberté. Si la liberté s'y prolonge, elle se transforme en licence. La guerre civile ou sociale arrive et l'État est perdu, soit qu'il se fractionne et se démembre par l'effet de ses propres convulsions, soit que ses divisions le rendent la proie de l'étranger. Dans des conditions pareilles, les peuples préfèrent le despotisme à l'anarchie. Ont-ils tort? Et les États, une fois constitués, ont deux sortes d'ennemis, les ennemis du dehors et les ennemis du dehors. Quelles armes emploieront-ils en guerre contre les étrangers? Les deux généraux ennemis se communiquent-ils réciproquement leur plan de campagne pour se mettre mutuellement en état de se défendre? S'interdiront-ils les attaques nocturnes, les pièges, les embuscades? Les batailles en nombre de troupes inégales? Non, sans doute, n'est-ce pas? et de pareils combattants, apprêterait à rire. Mais ces pièges, ces artifices, toute cette stratégie indispensable à la guerre, vous ne voulez pas qu'on l'emploie contre les ennemis du dedans, contre les factieux? Oh, sans doute on y mettra moins de rigueur, mais au fond, les règles sont les mêmes. Est-il possible de conduire par la raison pure des masses violentes qui ne se meuvent que par des sentiments, des passions et des préjugés? Que la direction des affaires soit confiée à un autocrate, à une oligarchie ou au peuple lui-même. Aucune guerre, aucune négociation, aucune réforme intérieure ne pourra réussir sans le secours de ces combinaisons, que vous paraissez réprouver, mais que vous auriez été obligé d'employer vous-même, si le roi de France vous eût chargé de la moindre affaire d'État. Mais réprobation puérile que celle qui a frappé le traité du prince. Est-ce que la politique a rien à démêler avec la morale? Avez-vous jamais vu un seul État se conduire d'après les principes qui régissent la morale privée? Mais toute guerre serait un crime, même quand elle aurait une cause juste. Toute conquête n'ayant d'autre mobile que la gloire serait un forfait. Tout traité dans lequel une puissance aurait fait pencher la balance de son côté serait une indigne tromperie. Toute usurpation de pouvoir souverain serait un acte qui mériterait la mort. Rien ne serait légitime que ce qui serait fondu sur le droit. Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et je le maintiens, même en présence de l'histoire contemporaine. Tous les pouvoirs souverains ont eu la force pour origine, ou ce qui est la même chose, la négation du droit. Est-ce à dire que je le proscris? Non. Mais je regarde comme d'une application extrêmement illimitée, tant dans les rapports des nations entre elles que dans les rapports des gouvernants avec les gouvernés. Ce nom de droit lui-même, et d'ailleurs, ne voyez-vous pas qu'il est d'un vague infini? Où commence-t-il? Où finit-il? Quand le droit existera-t-il et quand n'existera-t-il pas? Je prends des exemples. Voici un État, la mauvaise organisation des pouvoirs publics, la turbulence de la démocratie, l'impuissance des lois contre les factieux, le désordre qui règne partout vont le précipiter dans la ruine. Un hardi s'élance des rangs de l'aristocratie ou du sein du peuple. Il brise tous les pouvoirs constitués. Il met la main sur les lois, il remanie toutes les institutions et il donne 20 ans de paix à son pays. Avait-il le droit de faire ce qu'il a fait? Pisistrate s'empare de la citadelle par un coup de main et prépare le siècle de Périclès. Brutus viole la constitution monarchique de Rome, expulse les Tarquins et fonde à coup de poignard une république dont la grandeur est le plus imposant spectacle qui ait été donné à l'univers. Mais la lutte entre le patricien et la plèbe, qui tant qu'elle a été contenue a fait la vitalité de la République, en amène la dissolution et tout va périr. César et Auguste apparaissent, sont encore des violateurs. Mais l'Empire romain, qui a succédé à la République grâce à eux, dure autant qu'elle et ne succombe qu'en couvrant le monde entier de ses débris. Eh bien, le droit, il était avec ces hommes audacieux? Non, selon vous. Et cependant, la postérité les a couverts de gloire. En réalité, ils ont servi et sauvé leur pays. Ils en ont prolongé l'existence à travers les siècles. Vous voyez bien que dans les États, le principe du droit est dominé par celui de l'intérêt. Et ce qui se dégage de ces considérations, c'est que le bien peut sortir du mal. Qu'on arrive au bien par le mal, comme on guérit par le poison, comme on sauve la vie par le tranchant du fer. Je suis moins préoccupé de ce qui est bon et moral que de ce qui est utile et nécessaire. J'ai pris les sociétés telles qu'elles sont, et j'ai donné des règles en conséquence. Abstraitement parlant, la violence et l'astuce sont-elles un mal? Oui, mais il faudra bien les employer pour gouverner les hommes, tant que les hommes ne sont pas des anges. Tout est bon ou mauvais, suivant l'usage qu'on en fait et le fruit que l'on en tire. La fin justifie les moyens. Et maintenant, si vous me demandez pourquoi, moi, républicain, Je donne partout la préférence au gouvernement absolu. Je vous dirai que, témoin dans ma patrie, l'inconstance et la lâcheté de la populace, de son guidenet pour la servitude, de son incapacité à concevoir et à respecter les conditions de la vie libre, c'est à mes yeux une force aveugle qui se dissout tôt ou tard, si elle n'est pas dans la main d'un seul homme. Je réponds que le peuple, livré à lui-même, ne saura que se détruire, qu'il ne saura jamais administrer, ni juger, ni faire la guerre. Et je vous dirai que la Grèce n'a brillé que dans les éclipses de la liberté, que sans le despotisme de l'aristocratie romaine, et que plus tard, sans le despotisme des empereurs, l'éclatante civilisation de l'Europe ne se fut point développée. Chercherai-je mes exemples dans les États modernes? Ils sont si frappants et si nombreux que je prendrai les premiers venus. Sous quelles institutions et sous quels hommes les républiques italiennes ont-elles brillé? Avec quels souverains l'Espagne, la France, l'Allemagne ont-elles constitué leur puissance? Eh bien, sous les Léon X, les Jules II, les Philippe II, les Barberousse, les Louis XIV, les Napoléon, tous hommes à la main terrible et posés plus souvent sur la garde de leurs épées que sur la charte de leurs États. Mais je m'étonne d'avoir parlé si longtemps pour convaincre l'illustre écrivain qui m'écoute. Une partie de ses idées n'est-elle pas, si je suis bien informé, dans l'esprit des lois? Ce discours a-t-il blessé l'homme grave et froid qui a médité sans passion sur les problèmes de la politique? Les encyclopédistes n'étaient pas des catons. L'auteur des lettres persanes n'était pas un saint, ni même un dévot ou bien fervent. Notre école, qu'on dit immorale, était peut-être plus attachée au vrai Dieu que les philosophes du XVIIIe siècle.
Vos dernières paroles me trouvent sans colère, Machiavel, et je vous ai écouté avec attention. Voulez-vous m'entendre? Et me laisserez-vous en user à votre égard avec la même liberté?
Je me tiens pour muet et j'écoute dans un respectueux silence celui que l'on a appelé le législateur des nations.
Vos doctrines n'ont rien de nouveau pour moi, Machiavel. Et si j'éprouve quelque embarras à les réfuter, c'est bien moins parce qu'elles inquiètent ma raison que parce que, fausses ou vraies, elles n'ont point de base philosophique. J'entends bien que vous êtes avant tout un homme politique et que les faits vous touchent de plus près que les idées. Mais vous conviendrez cependant que quand il s'agit de gouvernement, il faut aboutir à des principes. Vous ne faites aucune place dans votre politique, ni à la morale, ni à la religion, ni au droit. Vous n'avez à la bouche que deux mots, la force et l'astuce. Si votre système se réduit à dire que la force joue un grand rôle dans les affaires humaines, que l'habileté est une qualité nécessaire à l'homme d'État, vous comprendrez bien que c'est là une vérité qui n'a pas besoin de démonstration. Mais si vous érigez la violence en principe, l'astuce en maxime de gouvernement, si vous ne tenez compte dans vos calculs d'aucune des lois de l'humanité, le code de la tyrannie n'est plus que le code de la brute, car les animaux aussi sont adroits et forts. Et il n'y a, en effet, parmi eux, d'autres droits que celui de la force brutale. Mais je ne crois pas que votre fatalisme lui-même aille jusque-là, car vous reconnaissez l'existence du bien et du mal. Votre principe, c'est que le bien peut sortir du mal, et qu'il est permis de faire le mal quand il peut en résulter un bien. Ainsi, vous ne dites pas « il est bien en soi de trahir sa parole ». Il est bien d'user de la corruption, de la violence et du meurtre. Mais vous dites « on peut trahir quand cela est utile ». Tuer quand cela est nécessaire, prendre le bien d'autrui quand cela est avantageux. Je me hâte d'ajouter que dans votre système, ces maximes ne s'appliquent qu'aux princes, et quand il s'agit de leurs intérêts ou de ceux de l'État. En conséquence, le prince a le droit de violer ses serments. Il peut verser le sang à flot pour s'emparer du pouvoir ou pour s'y maintenir. Il peut dépouiller ceux qui l'a proscrit. renverser toutes les lois, en donner de nouvelles et les violer encore, dilapider les finances, corrompre, comprimer, punir et frapper sans cesse.
Mais n'est-ce pas vous-même qui avez dit que dans les états despotiques, la crainte était nécessaire, la vertu inutile, l'honneur dangereux, qu'il fallait une obéissance aveugle et que le prince était perdu s'il cessait de lever les bras un instant?
Oui, je l'ai dit. Mais quand je constatais, comme vous, les conditions affreuses auxquelles se maintient le pouvoir tyrannique, c'était pour le flétrir, et non pour lui élever des autels. C'était pour en inspirer l'horreur à ma patrie qui jamais, heureusement pour elle, n'a courbé la tête sous un pareil joug. Comment ne voyez-vous pas que la force n'est qu'un accident dans la marche des sociétés régulières, et que les pouvoirs les plus arbitraires sont obligés de chercher leurs sanctions dans des considérations étrangères aux théories de la force? Ce n'est pas seulement au nom de l'intérêt, mais au nom du devoir qu'agissent tous les oppresseurs. Ils le violent, mais ils l'invoquent. La doctrine de l'intérêt est donc aussi impuissante à elle seule que les moyens qu'elle emploie.
Ah, ici je vous arrête. Vous faites une part à l'intérêt. Cela suffit pour justifier toutes les nécessités politiques qui ne sont pas d'accord avec le droit.
C'est la raison d'État que vous invoquez. Remarquez donc que je ne puis pas donner pour base aux sociétés précisément ce qui les détruit. Au nom de l'intérêt, les princes et les peuples, comme les citoyens, ne commettront que des crimes. L'intérêt de l'État, dites-vous. Mais comment reconnaîtrais-je s'il lui est réellement profitable de commettre telle ou telle iniquité? Ne savons-nous pas que l'intérêt de l'État, c'est le plus souvent l'intérêt du prince en particulier, ou celui des favoris corrompus qui l'entourent. Je ne suis pas exposé à des conséquences pareilles en donnant le droit pour base à l'existence des sociétés, parce que la notion du droit trace des limites que l'intérêt ne doit pas franchir. Que si vous me demandez quel est le fondement du droit, je vous dirai que c'est la morale, dont les préceptes n'ont rien de douteux ni d'obscur, parce qu'ils sont écrits dans toutes les religions, et qu'ils sont imprimés en caractères lumineux dans la conscience de l'homme. C'est de cette source pure que doivent découler toutes les lois civiles, politiques, économiques, internationales. Exedem iure, sive exedem fonte, sive exedem principio. Mais c'est ici qu'éclate votre inconséquence. Vous êtes catholique, vous êtes chrétien. Nous adorons le même Dieu. Vous admettez ses commandements, vous admettez la morale, vous admettez le droit dans les rapports des hommes entre eux, et vous foulez aux pieds toutes ces règles quand il s'agit de l'État ou du prince. En un mot, la politique n'a rien à démêler, selon vous, avec la morale. Vous permettez au monarque ce que vous défendez au sujet. Suivant que les mêmes actions sont accomplies par le faible ou par le fort, vous les glorifiez ou vous les blâmez. Elles sont des crimes ou des vertus suivant le rang de celui qui les accomplit. Vous louez le prince de les avoir faites, et vous envoyez le sujet aux galères. Vous ne songez donc pas qu'avec des maximes pareilles, il n'y a pas de société qui puisse vivre. Vous croyez que le sujet tiendra longtemps ses serments quand il verra le souverain les trahir ? Qu'il respectera les lois quand il saura que celui qui les lui a données les a violées, et qu'il les viole tous les jours? Vous croyez qu'il hésitera dans la voie de la violence, de la corruption et de la fraude quand il y verra marcher sans cesse ceux qui sont chargés de le conduire? Détrompez-vous. Sachez que chaque usurpation du prince dans le domaine de la chose publique autorise une infraction semblable dans la sphère du sujet. Que chaque perfidie politique engendre une perfidie sociale. Que chaque violence en haut légitime une violence en bas. Voilà pour ce qui regarde les citoyens entre eux. Pour ce qui les regarde dans leur rapport avec les gouvernants, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est la guerre civile introduite à l'état de ferment au sein de la société. Le silence du peuple n'est que la trêve du vaincu, pour qui la plainte est un crime. Attendez qu'il se réveille. Vous avez inventé la théorie de la force. Soyez sûr qu'il l'a retenue. Au premier jour, il rompra ses chaînes. Il les rompra sous le prétexte le plus futile, peut-être, et il reprendra par la force ce que la force lui a arraché. La maxime du despotisme, c'est le perindéac cadavère des jésuites. Tuer ou être tué, voilà sa loi. C'est l'abrutissement aujourd'hui, la guerre civile demain. C'est ainsi, du moins, que les choses se passent sous les climats d'Europe. Dans l'Orient, les peuples sommeillent en paix dans l'avilissement de la servitude. Les princes ne peuvent donc pas se permettre ce que la morale privée ne permet pas. C'est là ma conclusion. Elle est formelle. Vous avez cru m'embarrasser en me proposant l'exemple de beaucoup de grands hommes qui, par des actes hardis, accomplis en violation des lois, avaient donné la paix à leur pays, quelquefois la gloire. Et c'est de là que vous tirez votre grand argument « le bien sort du mal ». J'en suis peu touché. Il ne m'est pas démontré que ces hommes audacieux ont fait plus de bien que de mal. Il n'est nullement établi pour moi que les sociétés ne se fussent pas sauvées et soutenues sans eux. Les moyens de salut qu'ils apportent ne compensent pas les germes de dissolution qu'ils introduisent dans les États. Quelques années d'anarchie sont souvent bien moins funestes pour un royaume que plusieurs années de despotisme silencieux. Vous admirez les grands hommes. Je n'admire que les grandes institutions. Je crois que pour être heureux, les peuples ont moins besoin d'hommes de génie que d'hommes intègres. Mais je vous accorde, si vous le voulez, que quelques-unes des entreprises violentes dont vous faites l'apologie ont pu tourner à l'avantage de certains États. Ces actes pouvaient se justifier dans les sociétés antiques où régnait l'esclavage et le dogme de la fatalité. On les retrouve dans le Moyen Âge et même dans les temps modernes. Mais au fur et à mesure que les mœurs se sont adoucies, que les lumières se sont propagées chez les divers peuples de l'Europe, à mesure surtout que les principes de la science politique ont été mieux connus, le droit s'est trouvé substitué à la force dans les principes comme dans les faits. Sans doute, les orages de la liberté existeront toujours, et il se commettra encore bien des crimes en son nom. Mais le fatalisme politique n'existe plus. Si vous avez pu dire, dans votre temps, que le despotisme était un mal nécessaire, vous ne le pourriez pas aujourd'hui. Car, dans l'état actuel des mœurs et des institutions politiques chez les principaux peuples de l'Europe, le despotisme est devenu impossible.
Impossible ? Ah, si vous parvenez à me prouver cela, je consens à faire un pas dans le sens de vos idées.
Je vais vous le prouver très facilement, si vous voulez bien me suivre encore.
Très volontiers, mais prenez garde, je crois que vous vous engagez beaucoup.